cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe le 13 octobre l'an 2000 à Saint-Jodard.
Nous allons commencer aujourd'hui un cours de réflexion sur la connaissance. Donc, cours, il y a une double réflexion sur la connaissance, une réflexion logique et une réflexion critique. Et il y a une très grande parenté entre les deux. On réfléchit sur une connaissance qui existe. La philosophie peut être critique quand elle aboutit au terme à la sagesse. Seule la sagesse peut critiquer. Et c'est son rôle de réfléchir sur la manière dont on l'a atteinte, dont on a atteint l'existence de Dieu, pour voir si c'est légitime, si c'est vrai. Le but de la critique, c'est de comprendre si la démarche de l'intelligence peut atteindre la vérité et comment elle l'atteint. Le but de la critique n'est pas inventif, n'est pas d'invention, n'est pas une recherche, c'est sur la recherche que porte la critique, pour savoir si cette recherche est légitime, si elle est vraie. La critique, ce serait très intéressant de bien voir cela. La critique, chez Aristote, n'est pas séparée de la philosophie, de la métaphysique. À l'intérieur des écrits d'Aristote de métaphysique, il y a des livres critiques, de réflexion critique. C'est du reste pour ça que la plupart du temps, on dit que la métaphysique d'Aristote n'a pas d'unité. Parce que c'est vrai que les livres Aristote se succède avec une intention très précise. Aristote découvre ce que c'est que la métaphysique, mais tous les livres n'ont pas la même valeur, n'ont pas le même éclairage. Et c'est ça qui fait la difficulté. Comme le passage de la science à la sagesse. Le livre Lambda est une théologie naturelle. Et donc, si on ne fait pas attention à cette diversité des points de vue d'Aristote, on ne comprend pas. On ne voit pas. Et le commentaire de saint Thomas sur Aristote est très particulier. Ce n'est pas une recherche pour découvrir comment Aristote organise cette nouvelle science et cette nouvelle sagesse, mais saint Thomas, il semble bien, fait toujours son commentaire d'Aristote en vue de sa théologie. C'est là où c'est juste de dire, étant au Moyen-Âge, la culture est chrétienne. Ça te distingue, et avec beaucoup de force, avec le contre-gentilès, ce que l'intelligence peut atteindre et ce que la foi vient compléter. Donc il le fait avec beaucoup de netteté. Cet homme n'est pas fidéiste. Il laisse à l'intelligence sa place, c'est très net. Mais il n'est pas philosophe. Il n'a pas fait de philosophie proprement dite. Il a regardé, presque dans un esprit assez critique, ce que l'intelligence peut atteindre et ce qu'elle ne peut pas atteindre. Il faut un regard de foi pour l'affirmer. Donc il a distingué très nettement tout ce que l'intelligence peut atteindre et ce que l'intelligence elle, ne peut pas atteindre. C'est ce livre du contrat gentilès qui, à ce point de vue-là, est merveilleux. Il est plus philosophique que la somme, le contrat gentilès, mais ce n'est pas la théologie. C'est un regard critique de réflexion, de séparation du domaine de la raison pure, de l'intelligence pure et de la foi. Saint Thomas sait ce que c'est que la critique avec le contrat gentilès, mais il ne la situe pas dans l'ensemble. Il pourrait la situer comme partie réflexive arrivée au terme. Donc l'intelligence n'a pas atteint l'existence de Dieu, elle ne peut pas être critique. Parce qu'elle n'a pas de normes. Elle n'a pas quelque chose qui permet l'intelligence est capable de réfléchir sur elle-même, d'être par elle-même son autocritique. Et la critique au point de vue philosophique a pris une grande importance à partir de Kant. C'est évident que ça a été, au point de vue de l'histoire de la pensée, Kant mettant la critique avant. Déjà Descartes mettant le doute, mais il n'a pas mis la critique avant toute la pensée philosophique. Tandis que Kant met la critique antérieure. Et donc, il est nécessaire de pouvoir montrer que la critique présuppose une connaissance et que elle vient en second lieu et qu'elle ne peut vraiment s'élaborer qu'au terme de cette recherche, où il y a une certaine stabilité. Dès que l'intelligence prouve l'existence de Dieu, arrive à le préciser, il y a connaissance du terme. C'est le sage qui atteint le terme. Le terme de ma connaissance, c'est d'affirmer l'existence de Dieu. Je ne veux pas aller plus loin et tout regarder dans cette lumière. Alors, ce serait très intéressant de bien voir, bien noter ça. Et comme on voit le point de départ de la métaphysique, voir le point de départ de la critique. C'est pour ça que on dit critique, quelquefois on dit épistémologie. Épistémologie, comme le nom l'indique, épistémé, c'est science. Donc épistémologie, c'est le logos sur la science, c'est la réflexion sur la science. La réflexion sur la science pour voir où se situe la science, où se situe la philosophie. Alors on réfléchit sur la structure de la science, la structure de la philosophie, pour montrer que ces deux connaissances peuvent être parallèles, peuvent exister parallèlement, chacune dit quelque chose du réel. Et le réel dépasse la science. Aussi bien. Aussi bien, c'est par la connaissance à son point de départ, tout de suite, je peux me poser la question critique. Vous voyez ? Donc, une critique est toute différente à la manière de Kant et à la manière d'une philosophie réaliste. On réfléchit sur cette philosophie, sur la manière de l'atteindre, on réfléchit sur l'intelligence, ayant déjà vécu, ayant déjà tout un exercice. Et à ce moment-là, j'essaie de comprendre la critique pour elle-même. Oui. Autrement dit, la critique reste dans le domaine de l'intentionnalité, le domaine du vécu par l'intelligence. Alors, il y a beaucoup de ressemblances avec toute l'attitude moderne qui consiste à étudier le vécu. Mais dans l'intention, c'est tout à fait différent. Dans l'intention, on étudie ce vécu pour remarquer, pour voir, pour critiquer, critiquer positivement le vécu de l'intelligence, pour voir si ce vécu est légitime, si ce vécu est vrai. Et on ne cherche pas à avoir par cette connaissance du vécu quelque chose qui a manqué à la philosophie. On cherche de vérifier si la philosophie a suffisamment respecté les lois profondes de l'intelligence. La critique, comme la logique, sont une attitude réflexive de l'intelligence. Il faut bien le comprendre, ça. La logique est un art. Ce n'est pas la philosophie. C'est un art de la connaissance. C'est l'art de la connaissance. La logique s'ajoute à la connaissance pour la fortifier. Et la logique est toujours là en même temps que la connaissance. Il s'agit Elle est là pour montrer si l'intelligence manœuvre correctement. Et donc, elle est surtout, la logique, surtout dans le raisonnement. Et on voit si tel raisonnement est vrai. Cette partie de la logique sur la démonstration, sur le raisonnement, est très utile comme logique. Elle est même indispensable. Toute la logique repose sur l'universel. Et la critique va montrer ce qu'est l'universel. Un être de raison, un être fabriqué par l'intelligence, avec un fondement réel. Donc, vous voyez que la critique, elle vient s'ajouter à la philosophie comme une partie réflexive venant après pour voir si ce qu'on a eu. Voir si l'intelligence a bien respecté son objet, a bien respecté. Parce qu'elle doit elle-même se former quand elle vient au secours de la métaphysique, pour montrer qu'on est en face d'une abstraction ultime qui, d'une certaine façon, n'est plus une abstraction. C'est peut-être cela qui est le plus intéressant dans la critique. C'est de montrer le mécanisme même de ma connaissance, et que ce mécanisme de la connaissance de plus en plus complexe. La critique met en pleine lumière la complexité de notre vie intellectuelle. Que notre vie intellectuelle ne s'élabore pas dans la naïveté. La première question qu'ils osent se poser sur la critique, c'est de voir comment l'intelligence se sert de l'expérience. Je passe du sensible à l'universel. Et je crois que c'est ce passage qui est le plus important. Je n'ai pas conscience de passer du singulier à l'universel. Quand l'enfant dit « papa » pour désigner un homme, tous les hommes seront papas. Une abstraction. Ce passage de papa à homme, c'est la naissance d'une intelligence qui passe contact sensible à quelque chose qui n'est plus existant qui ne peut plus être un support, puisque c'est le fruit de l'intelligence. Homme universel n'existe pas. Il n'existe que dans mon intelligence. Il a donc une existence tout à fait spéciale, qu'on va nommer intentionnelle, parce que ça provient d'intelligence. Et au fond, on reviendra toujours à ce problème: comment l'intelligence peut abstraire, et comment de fait elle abstrait. Je vois que la connaissance peut être une connaissance qui regarde le sensible, qui regarde le singulier, et comment la connaissance peut dépasser le singulier et aboutir à une connaissance abstraite. Et vous comprenez que ceci, c'est tout à fait capital. Parce que si l'universel est faux, tout le prolonge, toutes les conséquences de ça, les connaissances de la science, est faussée. Si l'universel est authentique, je peux réfléchir sur la science qui atteint toujours l'universel et reste dans l'universel. La loi est dans l'universel et elle est elle-même universelle, que je consacre très particulièrement. C'est donc, je comprends, réfléchir sur la valeur de la science. La science qui repose sur l'universel est-elle une construction de l'esprit ou est-elle, au contraire, les lois profondes qui régissent la réalité? Il faut donc bien saisir l'objet propre de la critique et son utilité. L'objet propre de la critique, ce n'est pas le jugement d'existence. Le jugement d'existence est antérieur à la critique et n'est pas critiquable. Tout n'est pas critiquable. Le jugement d'existence n'est pas critiquable. Il échappe à la critique. Et c'est pour ça qu'on dira qu'il est naïf. La critique étant toujours là pour saisir ce qui est complexe. Or, le jugement d'existence apparaît comme quelque chose d'immédiat. L'intelligence saisit le ceci et saisit le ceci est. Donc, ce n'est pas un raisonnement, c'est le fruit d'une connaissance réaliste. C'est l'intelligence avec la réalité qui exprime ce qui se fait, ce qu'elle est capable de faire, et elle garde contact avec le réel par le jugement. Je crois que la première acquisition de la critique, c'est de considérer comme l'intelligence est capable d'appréhender une réalité sous le point de vue universel. Donc, une première inférence. Je vois un homme singulier, je vois des hommes singuliers que je peux connaître, que je peux adhérer. Et mon intelligence produit, c'est mon intelligence qui produit ça, elle produit un mot, une connaissance nouvelle, ce qui est commun. Elle produit l'universel. Et elle produit divers universaux. L'universel n'est pas une donnée à un seul étage. Elle produit divers universaux. Comment se fait cette production ? Vous voyez ? Tout de suite, je me pose la question du comment. Comment se fait cette production, ce passage de pierre que je rencontre, et homme ? C'est quand même énorme. Puisque si je ne connaissais que Pierre, je pourrais le décrire, et je n'irais pas très loin. Avec homme s'ouvre la science. Je connais l'homme abstrait. Je ne m'arrête pas à toute la singularité de Pierre, mais j'essaie de comprendre que dans homme, dans Pierre, il y a homme. Dans Pierre, il y a des attributs successifs. Il est intelligent. Et ce que je regarde pour Pierre, je le vois aussi pour des qualités. Je vois l'intelligence de Pierre. Il est intelligent, il connaît. Je vois un autre homme intelligent. Je dirais, de Pierre, de la nature de Pierre, il va y avoir une intelligence, une qualité. Et ces qualités demeure toujours chez tous les hommes. J'arriverai à découvrir les diverses sortes d'universalité. Le genre, la différence spécifique, l'espèce, la propriété, accident. J'hésite tous ces choses-là par un mode universel. Comment ça se fait que je peux distinguer ces cinq prédicables, ces cinq attributs ? Je les constate. Vous voyez, la logique regardera uniquement les prédicables, la critique se demande comment ça se fait. Pourquoi cinq prédicables, cinq attributs, le genre, différents spécifiques, espèces. propriété accident. Tout à fait élémentaire. Dans Pierre, je saisis homme, il est homme, son genre. Il est animal aussi. Parce que j'ai là des attributs, tous, qui dépassent le singulier, où il y a un passage du singulier à l'universel. Comment se fait ce passage ? J'ai demandé une fois à un psychanalyste s'il avait pensé à ce passage du singulier à l'universel. C'est énorme. Ben, il y en a un, j'ai jamais pensé. Et je dis, mais quand même, comment se fait-il que des hommes vivent toujours dans l'universel et puis d'autres singuliers? C'est pas la même chose. C'est très profond, ça, chez l'homme, de voir la différence entre le singulier et l'universel, de voir comment le savant, quand il est très pris par sa science, mais c'est l'universel qui l'intéresse. Le singulier comme singulier n'entre pas dans la science. Or, pour l'amour, le singulier est indispensable. Je n'aime pas l'universel. Je n'ai pas un amour particulier pour l'homme universel. Mais j'aime Pierre. J'aime Jean. Curieux, je vois tout de suite qu'il y a en moi deux attitudes tout à fait différentes, une attitude qui développe la connaissance universelle, et puis l'attitude de l'homme, l'affectivité, ne regarde que le singulier. L'universel n'intéresse pas du tout mon affectivité. Je suis donc tendu vers deux points de vue tout à fait différents. Ça, c'est la critique qui va regarder ça. C'est pas le philosophe, c'est la critique. Je m'intéresse à ça et je comprends que c'est intéressant de regarder le singulier. Comment se fait-il que certains hommes sont particulièrement sensibles à l'universel et d'autres hommes sont particulièrement sensibles au singulier. J'ai deux mentalités totalement différentes. L'une qui se fonde sur la connaissance universelle, l'autre sur le singulier. J'ai le droit de constater ça. Et ce problème, je le vois à la racine, mais ça aura d'immenses conséquences. Quand un homme est intéressé qu'aux mathématiques, d'un exemple pervers de l'universel, et qu'une femme n'est intéressée qu'au singulier, le contact, l'amitié, ne sera pas très commode. Parce que l'un ne s'intéressera qu'à l'universel. Le matheux est comme ça. Il pense plus que ça, lui. C'est en dehors. N'a pas d'intérêt. Alors, à partir de là, je comprends très bien qu'on dira qu'il y a deux principes en moi, l'intelligence qui connaît l'universel l'amour qui se porte sur le singulier. Parce que la bonté est toujours existentielle. Elle est toujours dans l'individu. Toujours. Elle n'est pas universelle. L'universel, au contraire, est tout le temps abstrait et se sépare du singulier. Il n'y en a que faire. Alors, vous voyez tout de suite l'importance qu'il y a à étudier ce qu'est l'universel et les déformations que ça peut poser. Puis je pourrais pousser plus loin. Je dirais qu'il y a encore une autre possibilité, parce que l'être, la connaissance de l'être, dans un jugement d'existence, ceci est, me fait atteindre quelque chose qui n'est pas l'universel, qui est le singulier, mais qui est un singulier qui est plus que uniquement un singulier. Un singulier qui peut être aussi. Qui fait que je suis en face d'un attribut, l'être, qui est tout à fait particulier. Là, je dirais, il est transcendantal. Ou plus exactement, toute une série d'attributs qui ne sont pas dans l'universel, qui sont en même temps universels et singuliers. Ceci est, c'est un singulier. Tout homme existe. Peut exister. Donc, l'abstraction de l'universel n'est pas le seul mode de connaissance. Il y en a un autre. Il faudra essayer de voir comment ça se fait. Et on pourrait étudier aussi la connaissance mathématique. C'est encore autre chose. Voilà la complexité de l'intelligence avec l'universel. J'ai un universel très simple. Le passage de papa à homme, très, très important, ce passage. Puis j'ai un universel beaucoup plus général, qui permet de voir la différence entre une connaissance scientifique puis une connaissance philosophique. Tout de suite. En critique, je vois qu'il y a deux types de connaissances, qu'il y a deux universels. Donc, je suis en présence de quelque chose de tout à fait radical. La différence de la connaissance du singulier et le point de vue universel. La critique ne regarderait que cela. C'est beaucoup. C'est très fondamental. Tout le temps dans ma vie, c'est l'universel, c'est le singulier. Et les critiques qu'on fait à certains, c'est qu'ils restent trop dans l'universel. Ils ne voient pas assez le singulier. Et d'autres, au contraire, ne voient que le singulier, ils ne voient plus l'universel. Celui qui ne voit que le singulier peut plus facilement épouser quelqu'un qui ne voit que le singulier. tellement c'est profond en nous, tellement ça touche à une diversité de caractères, de tempéraments, de vie. L'idéal de l'universel, c'est d'aboutir à une essence de science.